Migration des Français en Amérique du Sud. Première partie, Pigway.
Arrivé à Pigway, installation de l'hiver aveyronnais à l'été argentin.
Pourquoi Pigway?
Commençons par le commencement. En mars de l'année 1880, un jeune Aveyronnais originaire d'Ambec, sous-lieutenant de réserve, à l'orée de ses 30 ans, décida de migrer vers l'Argentine.
Pourquoi l'Argentine?
À cette époque, à Rhodes, un envoyé du gouvernement argentin recrutait des jeunes officiers français, d'actifs ou de réserve, pour réorganiser l'armée argentine. Or, le jeune Aveyronnais sous-lieutenant de réserve dénommé
Clément Cabanet
se trouvait justement à Rhodes en ce moment. Apprenant la nouvelle, il s'inscrivit, fut accepté et partit, accompagné de sa jeune épouse. En octobre de cette même année 1880, un autre jeune Aveyronnais, à l'orée de ses 28 ans, quitta la France pour migrer vers l'Argentine.
Encore l'Argentine?
Oui, le gouvernement argentin avait lancé une campagne d'immigration dans toute l'Europe et les Français, atteints par la grande détresse économique et sociale provoquée en partie par la révolution industrielle, cherchaient de nouvelles perspectives de travail.
Comme tous les autres Européens d'ailleurs.
Oui, et Paris, où des vagues de migrants arrivaient de France et de toute l'Europe, épuisait sa capacité d'absorber toute cette main-d'œuvre, qu'elle fût qualifiée ou non. Ce deuxième jeune Aveyronnais, dénommé
François Issali,
muni de son expérience toute récente de charpentier, et qui plus est, du maniement des scies mécaniques hydrauliques, décida d'aller tenter sa chance en Argentine, où les gouvernements offraient des conditions de migration très séduisantes. Hébergement et alimentation pendant 5 jours à l'hôtel de l'immigration à Buenos Aires, et ensuite voyage gratuit pour s'installer dans d'autres villes argentines.
Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. En el valle y la montaña, en la pampa y en el mar. Cada cual con sus trabajos, con sus sueños, cada cual. Con la esperanza delante, con los recuerdos detrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar.
À Alors que Clément Cabanet s'installa à Buenos Aires, la capitale de l'Argentine, François Isalie préféra aller en province et s'installa à la colonie de Santa Fe, où il exerça pendant un an ses métiers de charpentier et de meunier. Ensuite, il revint à Buenos Aires avec l'intention de repartir en France pour chercher son père et d'autres membres de sa famille, car il voyait en Argentine un futur prometteur pour lui et les siens. À Buenos Aires, il rencontra dans la rue un Aveyronais avec qui il avait traversé l'Atlantique un an auparavant. Dans un bar où ils ont trinqué,
à la mode aveyronaise,
les deux hommes ont parlé de leur vie respective en Argentine au courant de l'année que venait de s'écouler. Puis, François Isalie demanda à son compagnon s'il connaissait d'autres Aveyronais à Buenos Aires, car ils pouvaient se faire messager de leurs nouvelles à leurs familles en France. Ce fut ainsi que par un pur hasard,
celui qui fait très bien les choses,
François Isalie fit connaissance de Clément Cabanet. L'entrevue se passa le 1er juin 1882, dans les bureaux de l'Union téléphonique où Clément Cabanet exerçait la fonction de directeur. Le premier contact, fort sympathique, fut à l'origine d'une grande amitié et de la détermination de réaliser ensemble un projet pour lequel Clément Cabanet avait déjà entamé des démarches. C'est lui de créer en Argentine une colonie agricole aveyronaise.
Con un horizonte abierto que siempre está más allá y esa fuerza para buscarlo con tesón y voluntad. Cuando parece más cerca es cuando se aleja más.
Clément Cabanet avait déjà obtenu du gouverneur de la province de Buenos Aires la promesse de concession d'un terrain et devait signer très prochainement l'acte de cession. Le projet de Clément Cabanet correspondait aux intentions du gouvernement argentin de peupler les suds de l'Argentine, qui s'est constituée en une zone floue allant vers la Patagonie, où la menace chilienne planait constamment et où la population autochtone résistait farouchement à son expulsion par les autorités argentines. France, plus précisément en Aveyron, François Isalie se fit non seulement messager des nouvelles familiales de Clément Cabanet, mais plus encore de son projet de création d'une colonie agricole aveyronaise en Argentine. Il s'investit dans la mission de recruter les futurs colons pendant que Clément Cabanet s'occupait des démarches administratives en Argentine et de l'installation de la colonie. De ce 1er juin 1882 au 23 octobre 1884, les deux hommes œuvrèrent, un en Argentine,
Clément Cabanet,
et l'autre en France,
François Isalie,
dans la mise en place de leur projet. Car François Isalie avait non seulement adhéré à l'idée de Clément Cabanet, mais plus encore, avait mis tous ses moyens dans la réalisation de cette idée. bien des déboires emboîtèrent les pas des deux hommes. Mais ni l'un ni l'autre céda, car ils croyaient tous les deux à un avenir fructueux pour eux-mêmes et pour leurs compatriotes, et ils avaient tous les deux la carrure de pionniers.
Tu ne m'as toujours pas dit pourquoi Pigouet ?
Revenons à la cession des terres à Clément Cabanet par le gouvernement de la province de Buenos Aires. En fait, quelque temps après le départ de François Issaly vers la France en messager du projet de Clément Cabanet, les gouverneurs de la province de Buenos Aires annonça à Clément Cabanet qu'il revenait sur sa décision. Les terres qu'il lui avait promises serait offerte à des Indiens qui avaient mené bataille avec le gouvernement argentin contre d'autres Indiens qui occupaient les terres du Sud convoitées par les autorités argentines. Sans se laisser abattre, Clément Cabanet se mit à la recherche d'autres terres et acheta à Édouard Casey, argentin de naissance, noble irlandais de famille, des terres situées à 600 km environ de Buenos Aires, la capitale de l'Argentine, soulignons-le, et à 140 km du grand port de Bahía Blanca, dans les terres de Pihué.
Por tu inmensa gloria,
Señor Dios Rey Celestial.
C'est terre, Marie. Ne l'oublions pas, était habité depuis bien avant l'arrivée de Christophe Colomb et de tous les explorateurs européens. Les autochtones, dénommés indiens par les explorateurs, l'appelaient Pihué, autrement dit en français, lieu de palabre. Nom donné également à la petite rivière ou ruisseau qui traverse ces terres. Par souci de facilité de prononciation, le mot Pihué fut transformé en Pigouet. C'est ainsi que le commissariat à l'immigration à Buenos Aires registra, le 2 décembre 1884, 143 personnes allant travailler comme agriculteurs à la colonisation des terrains à Kurumalan-Pigwe. Kurumalan étant le nom des montagnes qui se trouvent sur ces terres. François Sali, dans son journal, parle d'une liste de 162 personnes données au commandant du vapeur Belgrano, soit 19 personnes de plus que le registre du commissariat et l'immigration. La différence réside peut-être sur le nombre d'enfants mineurs faisant partie du convoi. Ce registre ne mentionne pas l'état de fatigue et d'anxiété de ces personnes arrivées en terre inconnue, face à des administrateurs parlant une langue inconnue, après 38 jours de difficiles voyages en mer. Le 3 décembre 1884, Clément Cabanette franchit par voie ferrée argentine avec ses compatriotes la dernière étape de ses périples, sans François Sali, resté à Buenos Aires, accompagné du frère de Clément Cabanette, affairé par les dernières démarches de transport des affaires du convoi. Ils arrivèrent à Pigwe le lendemain, le 4 décembre 1884, date retenue comme étant celle de la fondation de Pigwe.
Ce jour-là, j'eus la réjouissance et le contentement de voir mes efforts héroïques couronnés de succès.
Écrivit François Sali dans son journal.
Señor, ten piedad de nosotros.
L'extrême fatigue des membres du groupe ne cacha pas pour autant leur grande déception. Le village était composé d'à peine deux maisons en briques, celle de Clément Cabanette et de son assistant. Des hangars couverts de zinc dans lesquels les immigrants passèrent leur première nuit et une cantine en bois en guise de restaurant. Quid des maisonnettes en bois et recouvertes de zinc pour accueillir provisoirement chaque famille? Émile Cabanette et Pierre Gombert, dans leur livre
« Pigoué, ces Français devenus gauchos »
transcrivent un extrait du journal d'Anaïs Vial, qui est arrivée à Pigoué à l'âge de 8 ans avec ses parents le 3 décembre 1884.
Les premiers temps furent durs,
dit-elle.
À notre arrivée, nous ne pouvions pas disposer d'un local où nous aurions pu être hébergés convenablement. À cette époque n'existaient que les bâtiments de la gare, de l'administration, de la colonie et un autre de bois censé servir d'hôtel, mais de capacité fort réduite. Cependant, l'administration avait fait édifier un vaste hangar pour y loger provisoirement les familles des voyageurs.
Les voilà à nouveau rendus à la précarité du bateau qui les avait fait traverser l'océan. Le hangar n'avait pas de pièces séparées, dit Anaïs Viala. Chaque famille s'installa tant bien que mal, délimitant des espaces de vie avec leurs couvertures, leurs vêtements, des bouts de tissu. Effroyable pour Clément Cabanette, car il avait avancé une somme importante.
98 000 francs,
écrivit François Essali dans son journal, à une entreprise installée à la banlieue de Buenos Aires par l'intermédiaire d'un compatriote d'Espalion. François Essali fut incisif dans son journal, responsabilisant un Belge qui avait travaillé à la société du pain téléphone sous la direction de Clément Cabanette et qui celui-ci aurait employé comme son contremaître. Émile Cabanette et Pierre Gombert sont plus discrets dans leurs livres.
Malheureusement, en l'absence de Clément Cabanette, l'intermédiaire chargé des travaux s'est fondu dans la nature, emportant l'argent avancé.
La réalité fut que Cabanette s'y trouva face au fait accompli, sans pouvoir récupérer la somme perdue et surtout sans pouvoir offrir à ses compatriotes les conditions d'hébergement et des matériels promises pour leur arrivée. Quatre jours après leur arrivée, le 8 octobre 1884, Clément Cabanette conduisit le groupe à une visite des terres, qui à pied, qui à cheval, qui sur des chars, et à la fin de la journée, certaines familles avaient déjà choisi leur lot. Mais l'attribution des lots fut réalisée par tirage au sort le 14 décembre, 10 jours après l'arrivée du groupe. Le 16 décembre, François Essali écrivit
« Nous avons quitté le centre de la colonie où nous habitions depuis notre arrivée de France à Pigoué pour nous transporter dans la maison en bois et en zinc qui a commencé à être construite hier.
Certaines maisons, celles voisines avec la sierra, les montagnes, les causses.
Au mur de pierre, ressemble étrangement à celle laissée en Rouergue.
Peu à peu, les colons s'installaient et la vie de tous les jours prenait le dessus. Anaïs Viala raconte dans son journal, extrait transcrit par Émile Cabanette et Pierre Gombert.
Nous étions arrivés en décembre, l'été argentin. Je vis donc la récolte donnée par les premiers sillons tracés à la demande de Monsieur Cabanette, alors que se préparait à arriver le premier groupe de colons. Les récoltes étaient sur le point d'être levées. Nous nous mîmes immédiatement au travail.
Les récoltes furent abondantes. La colonie commençait déjà à prospérer. Les nouveaux colons pouvaient même prendre le temps de s'étonner de cet environnement si différent de leur aveyron natal.
Ce mois correspond ici au mois de juillet en France.
Écrivit François Essaly dans son journal en janvier 1885. Puis encore...
Les familles nouvellement arrivées sont toutes étonnées de voir qu'ici, en ce moment, on est en été et qu'en France, on est en hiver.
La nature humaine interpelle également les nouveaux arrivés.
Beaucoup s'étonnent aussi de trouver un peuple avec un langage différent et aussi de couleurs différentes.
Fort malheureusement, les vents qui soufflent dans ces pampas transportent avec eux aussi des mauvaises nouvelles. C'est ainsi qu'à peine 2 mois après la prise des lots par les familles, en février 1885, François Essaly fut interpellé par un des habitants du village. Cet homme l'informa qu'un villageois s'était adressé à un avocat à Buenos Aires au sujet de la cote de donation des terrains faite par Clément Cabanette, qu'elle n'était pas valable car ce terrain s'y trouvait hypothéqué. François Essaly se refusa à croire cette information. Il se vit cependant obligé de la reconnaître lorsque, quelque temps plus tard, le ministre de France à Buenos Aires reçut Clément Cabanette et Édouard Cazey à son bureau suite à une plainte déposée par un des colons de Pigoué. Édouard Cazey a donc expliqué au ministre et à Clément Cabanette qu'il avait demandé au notaire de ne pas mentionner l'hypothèque dans l'acte de vente, car il avait l'intention de la lever dans les jours qui suivaient. À ces moments précis, il renouvela l'intention de lever l'hypothèque. D'après François Essaly, Clément Cabanette lui aurait raconté en détail cette rencontre après son retour de Buenos Aires. C'est ainsi qu'il relata les faits dans son journal et qu'il écrivit la réponse d'Édouard Cazey au ministre dans ces termes.
Monsieur Clément Cabanette ne court absolument aucun danger car il m'a acheté le terrain à crédit. Il ne m'a encore rien payé et me doit en plus toutes les avances que je lui ai faites en argent pour installer les colons. De plus, dans les contrats provisoires qu'il a faits aux colons déjà installés, il s'est réservé 6 ans de temps avant de leur donner le titre définitif de propriété. D'ici là, monsieur le ministre peut le croire, l'hypothèque sera levée.
1 mois plus tard, les nouveaux contrats mentionnaient un article additionnel par lequel, à la fin du contrat provisoire signé avec monsieur Cabanette, les terrains qu'il avait cédés seraient libres de toute hypothèque. Toujours soucieux de bien fonder ses informations, François Essaly transcrivit dans son journal son nouveau contrat, signé entre lui et M. Clément Cabanette, soulignant que ceci était écrit en français et en langue castillane, la langue du pays. Le contrat portait à la fin l'article additionnel suivant.
Le sous-signé Édouard Cazey s'oblige conjointement avec M. Cabanette a donné à M. François Issali, à l'expiration des 6 années de son contrat et rempli les obligations dudit, le titre définitif et légal de sa concession, libre de toute hypothèque.
Cet incident fut secondaire face aux contraintes posées par la nature. L'automne, mars en Argentine, arriva portant avec lui des fortes gelées. D'apprentissage en apprentissage, les colons se rendirent compte des limites offertes par la terre promise. Un climat rigoureux, froid en hiver, chaud et sec en été, et sans cesse ce vent balayait terre, champs et maisons, et une faune ravageuse, indomptable. Peuple fort, esprit collectif, les colons avéronnais construisirent petit à petit leur nouveau monde, ancré dans leurs habitudes et connaissances ancestrales. Émile Cabanet et Pierre Gombet, dans leur livre
« Pigoué, ces Français devenus gauchos ?»
peignent de façon amusante, bien que très sérieuse, les tableaux de cette nouvelle vie. Ils parlent de l'entraide entre les agriculteurs, échangeant le matériel agricole, les attelages et les ouvriers agricoles.
À des milliers de kilomètres de la province mère, la vie s'organise en autarcie et à la Rouergat. On reste entre Aveyronnais d'abord, Français ensuite. On se méfie de tous ces Italiens, Espagnols ou Allemands, venus pour la plupart ouvrir des commerces. On fuit avec frayeur les quelques Indiens restant accusés de toutes les turpitudes. L'habitant de Pigoué préfère reconstituer l'univers qui était naguère le sien.
Rien d'étonnant. Les contraires seraient préoccupants. Malgré les vicissitudes, les contrariétés, les difficultés momentanément infranchissables, telles que les circonstances atmosphériques catastrophiques qui provoquèrent une récolte médiocre pour certains en 1885 et une récolte anéantie par une terrible sécheresse en 1886, les colons aveyronnais gardèrent leur courage et leur détermination à vaincre cette nature hostile. La vie suivait son cours. Le 14 août 1885, toute la communauté aveyronnaise de Pigoué s'y rendit chez Clément Cabanet pour lui souhaiter bon anniversaire. Il fêtait ses 34 ans. Son ami François Issali raconte.
Ce jour, 14 août 1885, après-midi, tous les colons, nous nous sommes transportés à Pigoué pour rendre visite à M. Clément Cabanet, le saluer, lui faire nos compliments et lui témoigner en même temps notre attention en l'honneur de l'anniversaire de sa naissance.
Le 20 février 1886, le premier mariage fut célébré à la nouvelle colonie, celui de François Issali et de Marie-Rose Léonie Vialard. En mars 1886, François Issali écrivit.
Ce mois de mars 1886, j'eus la satisfaction de terminer de ramasser ma récolte de blé, de la battre et de la porter de chez moi à Pigoué pour la déposer dans les dépôts construits tout près de la gare par l'intermédiaire de M. Cabanet pour la mettre à l'abri avec la récolte des autres colons pour qu'elle soit à sa disposition pour la vendre et commencer à se rembourser des avances qu'il nous a faites.
Le contentement fut de courte durée. D'autres colons, n'ayant pas eu le même résultat, manquèrent leurs engagements de versement en nature à Clément Cabanet. Celui-ci se vit contraint de, à son tour, manquer à ses engagements auprès d'Édouard Cazet. Ses essais de négociation avec l'homme d'affaires avisé furent infructueux. Édouard Cazé lui proposa une indemnisation de 500 000 pesos. Clément Cabanet refusa, ne voulant pas abandonner ses compatriotes qui lui avaient fait confiance dans cette entreprise hasardeuse. Sous la pression d'Édouard Cazé, Clément Cabanet résilia son contrat et les terres revinrent à la société qu'ils avaient vendue. Ce fut la plus cruelle déception de Clément Cabanet.
C'est terrible, un si beau rêve. Que devient-il? Et François Issali et tous les autres colons, est-ce qu'ils gardent leurs terres?
Toujours si curieuse, Marie. Je n'ai plus le temps de te raconter aujourd'hui. Il va falloir attendre la prochaine émission.
Vous venez d'écouter Migration française vers l'Amérique du Sud.
Première partie, Pigoué, l'histoire des Aveyronnais devenus gauchos.
Racontée par une gauche devenue aveyronnaise.
Une émission enregistrée au studio de Radio Larzac, avec un texte de Rita,
régie et montage Marie, et les voix de
Marie,
Jean,
Nicolas
et Rita. Nos sources aujourd'hui.
De l'Aveyron à l'Argentine, itinéraire d'un pionnier, chronique de la fondation de la colonie française aveyronnaise de Pigoué, d'après le manuscrit de François Issali, 1924, adaptation de Nadine Coste.
Pigoué, ces Français devenus gauchos, d'Émile Cabanet et Pierre Gomber.
Les Aveyronnais dans la Pampa, œuvre de la Fondation Développement et Vie de la colonie aveyronnaise de Pigoué, Argentine, 1884-1892, édition de 1993.
Merci à toute l'équipe. Merci à tous ceux qui collaborent dans nos recherches musicales. Merci à vos auditeurs. N'oubliez pas, prochain épisode mardi 19 juin à 19h et le samedi 23 juin à 15h. Soyez impatients.